Le côté de Guermantes, deuxième partie. Chapitre 1. Comme je l'avais supposé, avant de faire la connaissance de Madame de Villeparisis à Balbec, il y avait une grande différence entre le milieu où elle vivait et celui de Madame de Guermantes. Madame de Villeparisis était une de ces femmes qui, nées dans une maison glorieuse, entrées par leur mariage dans une autre qui ne l'était pas moins, ne jouissent pas cependant d'une grande situation mondaine, et, en dehors de quelques duchesses qui sont leurs nièces ou leurs belles-sœurs, et même d'une ou deux têtes couronnées, vieilles relations de famille, n'ont dans leur salon qu'un public de troisième ordre, bourgeoisie, noblesse de province ou tarée, dont la présence a depuis longtemps éloigné les gens élégants et snobs, qui ne sont pas obligés d'y venir par devoir de parenté ou d'intimité trop ancienne. Certes, je n'eus au bout de quelques instants aucune peine à comprendre pourquoi Madame de Villeparisis s'était trouvée, à Balbec, si bien informée, et mieux que nous-mêmes, des moindres détails du voyage que mon père faisait alors en Espagne avec M. de Norpois. Mais il n'était pas possible, malgré cela, de s'arrêter à l'idée que la liaison, depuis plus de 20 ans, de Madame de Villeparisis avec l'ambassadeur, put être la cause du déclassement de la marquise dans un monde où les femmes les plus brillantes affichaient des amants moins respectables que celui-ci, lequel, d'ailleurs, n'était probablement plus depuis longtemps pour la marquise autre chose qu'un vieil ami. Madame de Villeparisis avait-elle eu jadis d'autres aventures? Étant alors d'un caractère plus passionné que maintenant, dans une vieillesse apaisée et pieuse qui devait peut-être pourtant un peu de sa couleur à ses années ardentes et consumées, n'avait-elle pas su, en province où elle avait vécu longtemps, éviter certains scandales inconnus des nouvelles générations, lesquels en constataient seulement l'effet dans la composition mêlée et défectueuse d'un salon fait, sans cela, pour être un des plus purs de tout médiocre alliage. Cette mauvaise langue que son neveu lui attribuait lui avait-elle, dans ces temps-là, fait des ennemis? L'avait-elle poussée à profiter de certains succès auprès des hommes pour exercer des vengeances contre des femmes? Tout cela était possible. Et ce n'est pas la façon exquise, sensible, nuançant si délicatement non seulement les expressions, mais les intonations, avec laquelle Madame de Villeparisis parlait de la pudeur, de la bonté, qui pouvait infirmer cette supposition. Car ceux qui non seulement parlent bien de certaines vertus, mais même en ressentent le charme et les comprennent à merveille, qui sauront en peindre dans leur mémoire une digne image, sont souvent issus, mais ne font pas eux-mêmes partie, de la génération muette, fruste et sans art qui les pratiqua. Celle-ci se reflète en eux, mais ne s'y continue pas. À la place du caractère qu'elle avait, on trouve une sensibilité, une intelligence, qui ne servent pas à l'action. Et qu'il y eut ou non, dans la vie de Madame de Villeparisis, de ces scandales qu'eût effacé l'éclat de son nom, c'est cette intelligence, une intelligence presque d'écrivain de second ordre, bien plus que de femme du monde, qui était certainement la cause de sa déchéance mondaine. Sans doute, c'était des qualités assez peu exaltantes, comme la pondération et la mesure, que prônait surtout Madame de Villeparisis. Mais pour parler de la mesure d'une façon entièrement adéquate, la mesure ne suffit pas, et il faut certains mérites d'écrivain qui supposent une exaltation peu mesurée. J'avais remarqué à Balbec que le génie de certains grands artistes restait incompris de Madame de Villeparisis, et qu'elle ne savait pas les railler finement et donner à son incompréhension une forme spirituelle et gracieuse. Mais cet esprit et cette grâce, au degré où ils étaient poussés chez elle, devenaient eux-mêmes, dans un autre plan, et fussent-ils déployés pour méconnaître les plus hautes œuvres, de véritables qualités artistiques. Or, de telles qualités exercent sur toute situation mondaine une action morbide, élective, comme disent les médecins, et si désagrégeante que les plus solidement assises ont peine à y résister quelques années. Ce que les artistes appellent intelligence semble prétention pure à la société élégante, qui, incapable de se placer au seul point de vue d'où il juge tout, ne comprenant jamais l'attrait particulier auquel il cède en choisissant une expression ou en faisant un rapprochement, éprouve auprès d'eux une fatigue, une irritation, d'où naît très vite l'antipathie. Pourtant, dans sa conversation, il en est de même des mémoires d'elle qu'on a publiées depuis. Madame de Villeparisis ne montrait qu'une sorte de grâce tout à fait mondaine. Ayant passé à côté de grandes choses sans les approfondir, quelquefois sans les distinguer, elle n'avait guère retenu des années où elle avait vécu et qu'elle dépeignait d'ailleurs avec beaucoup de justesse et de charme, que ce qu'elles avaient offert de plus frivole. Mais un ouvrage, même s'il s'applique seulement à des sujets qui ne sont pas intellectuels, est encore une œuvre de l'intelligence, et pour donner dans un livre, ou dans une causerie qui en diffère peu, l'impression achevée de la frivolité, il faut une dose de sérieux dont une personne purement frivole serait incapable. Dans certains mémoires écrits par une femme et considérés comme un chef-d'œuvre, telle phrase qu'on cite comme un modèle de grâce légère m'a toujours fait supposer que pour arriver à une telle légèreté, l'auteur avait dû posséder autrefois une science un peu lourde, une culture rébarbative, et que, jeune fille, elle semblait, probablement à ses amis, un insupportable bas-bleu. Et, entre certaines qualités littéraires et l'insuccès mondain, la connexité est si nécessaire qu'en lisant aujourd'hui les mémoires de Madame de Villeparisis, telle épithète juste, telle métaphore qui se suivent, suffiront au lecteur pour qu'à leur aide ils reconstituent le salut profond, mais glacial, que devait adresser à la vieille marquise, dans l'escalier d'une ambassade, tel snob comme Madame Leroy, qui lui cornait peut-être un carton en allant chez les Guermantes, mais ne mettait jamais les pieds dans son salon, de peur de s'y déclasser parmi toutes ces femmes de médecins ou de notaires. Un bas bleu, Madame de Villeparisis en avait peut-être été un dans sa prime jeunesse, et, ivre alors de son savoir, n'avait peut-être pas su retenir contre des gens du monde moins intelligents et moins instruits qu'elle des traits acérés que le blessé n'oublie pas. Puis, le talent n'est pas un appendice postiche qu'on ajoute artificiellement à ces qualités différentes qui font réussir dans la société, afin de faire, avec le tout, ce que les gens du monde appellent une femme complète. Il est le produit vivant d'une certaine complexion morale où généralement beaucoup de qualités font défaut et où prédomine une sensibilité dont d'autres manifestations que nous ne percevons pas dans un livre peuvent se faire sentir assez vivement au cours de l'existence. Par exemple, telle curiosité, telle fantaisie, le désir d'aller ici ou là pour son propre plaisir et non en vue de l'accroissement, du maintien ou pour le simple fonctionnement des relations mondaines. J'avais vu à Malbec Madame de Villeparisis enfermée entre ces gens et ne jetant pas un coup d'œil sur les personnes assises dans le hall de l'hôtel. Mais j'avais eu le pressentiment que cette abstention n'était pas de l'indifférence, et il paraît qu'elle ne s'y était pas toujours cantonnée. Elle se toquait de connaître tel ou tel individu qui n'avait aucun titre à être reçu chez elle, parfois parce qu'elle l'avait trouvé beau, ou seulement parce qu'on lui avait dit qu'il était amusant, ou qu'il lui avait semblé différent des gens qu'elle connaissait, lesquels, à cette époque, où elle ne les appréciait pas encore parce qu'elle croyait qu'ils ne la lâcheraient jamais, appartenaient tous au plus pur faubourg Saint-Germain. Ce bohème, ce petit bourgeois qu'elle avait distingué, elle était obligée de lui adresser ses invitations, dont elle ne pouvait pas apprécier la valeur, avec une insistance qui la dépréciait peu à peu aux yeux des snobs, habitués à coter un salon d'après les gens que la maîtresse de maison exclut, plutôt que d'après ceux qu'elle reçoit. Certes, si à un moment donné de sa jeunesse, Madame de Villeparisis, blasée sur la satisfaction d'appartenir à la fine fleur de l'aristocratie, s'était en quelque sorte amusée à scandaliser les gens parmi lesquels elle vivait, à défaire délibérément sa situation, elle s'était mise à attacher de l'importance à cette situation après qu'elle l'eut perdue. Elle avait voulu montrer aux duchesses qu'elle était plus qu'elle, en disant, en faisant tout ce que celle-ci n'osait pas dire, n'osait pas faire. Mais maintenant que celle-ci, sauf celle de sa proche parenté, ne venait plus chez elle, elle se sentait amoindrie et souhaitait encore de régner, mais d'une autre manière que par l'esprit. Elle eût voulu attirer toutes celles qu'elle avait pris tant de soin d'écarter. Combien de vies de femmes, vies peu connues d'ailleurs, car chacun selon son âge a comme un monde différent et la discrétion des vieillards empêche les jeunes gens de se faire une idée du passé et d'embrasser tout le cycle. Ont été divisées ainsi en périodes contrastées. La dernière, tout employée à reconquérir ce qui, dans la deuxième, avait été si gaiement jeté au vent. Jeté au vent, de quelle manière? Les jeunes gens se le figurent d'autant moins qu'ils ont sous les yeux une vieille et respectable marquise de Villeparisis, et n'ont pas l'idée que la grave mémorialiste d'aujourd'hui, si digne sous sa perruque blanche, ait pu être jadis une gaie soupeuse qui fit peut-être alors les délices, mangea peut-être la fortune d'homme couché depuis dans la tombe, qu'elle se fût employée aussi à défaire, avec une industrie persévérante et naturelle, la situation qu'elle tenait de sa grande naissance ne signifie d'ailleurs nullement que, même à cette époque reculée, Madame de Villeparisis n'attacha pas un grand prix à sa situation. De même, l'isolement, l'inaction où vit un neurasthénique peuvent être ourdis par lui du matin au soir sans lui paraître pour cela supportable, et tandis qu'il se dépêche d'ajouter une nouvelle maille au filet qui le retient prisonnier, il est possible qu'il ne rêve que bals, chasses et voyages. Nous travaillons à tout moment à donner sa forme à notre vie, mais en copiant, malgré nous, comme un dessin, les traits de la personne que nous sommes, et non de celle qu'il nous serait agréable d'être. Les saluts dédaigneux de Madame Leroy pouvait exprimer en quelque manière la nature véritable de Madame de Villeparisis. Il ne répondait aucunement à son désir. Sans doute, au même moment où Madame Leroy, selon une expression chère à Madame Swann, coupait la marquise, celle-ci pouvait chercher à se consoler en se rappelant qu'un jour, la reine Marie-Amélie lui avait dit « Je vous aime comme une fille ». Mais de telles amabilités royales, secrètes et ignorées, n'existaient que pour la marquise, poudreuse, comme le diplôme d'un ancien premier prix du conservatoire. Les seuls vrais avantages mondains sont ceux qui créent de la vie, ceux qui peuvent disparaître sans que celui qui en a bénéficié ait à chercher à les retenir ou à les divulguer, parce que dans la même journée, 100 autres leur succèdent. Se rappelant de telles paroles de la reine, Madame de Villeparisis les eut pourtant volontiers troquées contre le pouvoir permanent d'être invitée que possédait Madame le Roi. Comme, dans un restaurant, un grand artiste inconnu, et de qui le génie n'est écrit ni dans les traits de son visage timide, ni dans la coupe désuète de son veston râpé. Voudrait bien être même le jeune coulissier du dernier rang de la société, mais qui déjeune à une table voisine avec deux actrices, et vers qui, dans une course obséquieuse et incessante, s'empresse patron, maître d'hôtel, garçon, chasseur, et jusqu'aux marmitons qui sortent de la cuisine en défilé pour le saluer comme dans les féeries. Tandis que s'avance le sommelier, aussi poussiéreux que ses bouteilles, bancroche et ébloui, comme si, venant de la cave, il s'était tordu le pied avant de remonter au jour. Il faut dire pourtant que, dans le salon de Madame de Villeparisis, l'absence de Madame Leroy, si elle désolait la maîtresse de maison, passait inaperçue aux yeux d'un grand nombre de ses invités. Ils ignoraient totalement la situation particulière de Madame Leroy, connue seulement du monde élégant, et ne doutaient pas que les réceptions de Madame de Villeparisis ne fussent, comme en sont persuadés aujourd'hui les lecteurs de ses mémoires, les plus brillantes de Paris. À cette première visite qu'en quittant Saint-Loup j'allais faire à Madame de Villeparisis, suivant le conseil que M. de Norpois avait donné à mon père, je la trouvai dans son salon tendu de soie jaune, sur laquelle les canapés et les admirables fauteuils en tapisserie de Beauvais se détachaient en une couleur rose, presque violette, de framboises mûres. À côté des portraits des Guermantes, des Villeparisis, on en voyait, offert par le modèle lui-même, de la reine Marie-Amélie, de la reine des Belges, du prince de Joinville, de l'impératrice d'Autriche. Madame de Villeparisis, coiffée d'un bonnet de dentelle noire de l'ancien temps, qu'elle conservait avec le même instinct avisé de la couleur locale ou historique qu'un hôtelier breton qui, si parisienne que soit devenue sa clientèle, croit plus habile de faire garder à ses servantes la coiffe et les grandes manches, était assise à un petit bureau, où, devant elle, à côté de ses pinceaux, de sa palette et d'une aquarelle de fleurs commencées, il y avait dans des verres, dans des soucoupes, dans des tasses, des roses mousseuses, des ignats, des cheveux de Vénus, qu'à cause de l'affluence à ce moment-là des visites, elle s'était arrêtée de peindre, et qui avait l'air d'achalander le comptoir d'une fleuriste dans quelque estampe du XVIIIe siècle. Dans ce salon, légèrement chauffé à dessein, parce que la marquise s'était enrhumée en revenant de son château, il y avait, parmi les personnes présentes, quand j'arrivais, un archiviste avec qui Madame de Villeparisis avait classé le matin les lettres autographes de personnages historiques à elle adressées et qui étaient destinées à figurer en fac-similé comme pièces justificatives dans les mémoires qu'elle était en train de rédiger. Et un historien, solennel et intimidé, qui, ayant appris qu'elle possédait par héritage un portrait de la duchesse de Montmorency, était venu lui demander la permission de reproduire ce portrait dans une planche de son ouvrage sur la Fronde. Visiteur auquel vint se joindre mon ancien camarade Bloch, maintenant jeune auteur dramatique, sur qui elle comptait pour lui procurer à l'œil des artistes qui joueraient à ses prochaines matinées. Il est vrai que le kaléidoscope social était en train de tourner et que l'affaire Dreyfus allait précipiter les Juifs au dernier rang de l'échelle sociale. Mais, d'une part, le cyclone dreyfusiste avait beau faire rage, ce n'est pas au début d'une tempête que les vagues atteignent leur plus grand courroux. Puis, Madame de Villeparisis, laissant toute une partie de sa famille tonner contre les Juifs, était jusqu'ici restée entièrement étrangère à l'affaire et ne s'en souciait pas. Enfin, un jeune homme comme Bloch, que personne ne connaissait, pouvait passer inaperçu, alors que de grands Juifs, représentatifs de leur parti, étaient déjà menacés. Il avait maintenant le menton ponctué d'un bouc. Il portait un binocle, une longue redingote, un gant, comme un rouleau de papyrus à la main. Les Roumains, les Égyptiens et les Turcs peuvent détester les Juifs. Mais dans un salon français, les différences entre ces peuples ne sont pas si perceptibles. Et un Israélite faisant son entrée comme s'il sortait du fond du désert, le corps penché comme une hyène, la nuque obliquement inclinée et se répandant en grands salams, contente parfaitement un goût d'orientalisme. Seulement, il faut pour cela que le juif n'appartienne pas au monde, sans quoi il prend facilement l'aspect d'un lord, et ses façons sont tellement francisées que chez lui, un nez rebelle, poussant comme les capucines dans des directions imprévues, fait penser au nez de Mascarille plutôt qu'à celui de Salomon. Mais Bloch, n'ayant pas été assoupli par la gymnastique du faubourg, ni ennobli par un croisement avec l'Angleterre ou l'Espagne, restait, pour un amateur d'exotisme, aussi étrange et savoureux à regarder, malgré son costume européen, qu'un juif de Décamps. Admirable puissance de la race, qui, du fond des siècles, pousse en avant jusque dans le Paris moderne, dans les couloirs de nos théâtres, derrière les guichets de nos bureaux, à un enterrement, dans la rue, une phalange intacte, stylisant la coiffure moderne, absorbant, faisant oublier, disciplinant la redingote, demeurant, en somme, toute pareille à celle des scribes assyriens, peints en costume de cérémonie, à la frise d'un monument de Suse qui défend les portes du palais de Darius. Une heure plus tard, Bloch allait se figurer que c'était par malveillance antisémite que M. de Charlus s'informait s'il portait un prénom juif, alors que c'était simplement par curiosité esthétique et amour de la couleur locale. Mais, au reste, parler de permanence de race rend inexactement l'impression que nous recevons des Juifs, des Grecs, des Persans, de tous ces peuples auxquels il vaut mieux laisser leur variété. Nous connaissons, par les peintures antiques, le visage des anciens Grecs. Nous avons vu des Assyriens au fronton d'un palais de Suse. Or, il nous semble, quand nous rencontrons dans le monde des Orientaux appartenant à tel ou tel groupe, être en présence de créatures que la puissance du spiritisme aurait fait apparaître. Nous ne connaissions qu'une image superficielle. Voici qu'elle a pris de la profondeur, qu'elle s'étend dans les trois dimensions, qu'elle bouge. La jeune dame grecque, fille d'un riche banquier, et à la mode en ce moment, a l'air d'une de ces figurantes qui, dans un ballet historique et esthétique à la fois, symbolise, en chair et en os, l'art hellénique. Encore au théâtre, la mise en scène banalise-t-elle ces images? Au contraire, le spectacle auquel l'entrée dans un salon d'une Turque, d'un Juif, nous fait assister, en animant leurs figures, les rend plus étranges, comme s'il s'agissait en effet d'être évoqué par un effort médiumnique. C'est l'âme, ou plutôt le peu de choses auxquelles se réduit, jusqu'ici du moins, l'âme dans ces sortes de matérialisations. C'est l'âme entrevue auparavant par nous dans les seuls musées, l'âme des Grecs anciens, des anciens Juifs, arrachée à une vie tout à la fois insignifiante et transcendantale, qui semble exécuter devant nous cette mimique déconcertante. Dans la jeune dame grecque qui se dérobe, ce que nous voudrions vainement étreindre, c'est une figure jadis admirée au flanc d'un vase. Il me semblait que si j'avais dans la lumière du salon de Madame de Villeparisis pris des clichés d'après Bloch, ils eussent donné d'Israël cette même image, si troublante parce qu'elle ne paraît pas émaner de l'humanité, si décevante parce que tout de même elle ressemble trop à l'humanité, et que nous montrent les photographies spirites. Il n'est pas, d'une façon plus générale, jusqu'à la nullité des propos tenus par les personnes au milieu desquelles nous vivons, qui ne nous donnent l'impression du surnaturel, dans notre pauvre monde de tous les jours, ou même un homme de génie, de qui nous attendons, rassemblé comme autour d'une table tournante, le secret de l'infini, prononce seulement ces paroles, les mêmes qui venaient de sortir des lèvres de Bloch. Qu'on fasse attention à mon chapeau haut de forme. Mon Dieu, les ministres, mon cher monsieur, était en train de dire madame de Villeparisis, s'adressant plus particulièrement à mon ancien camarade, et renouant le fil d'une conversation que mon entrée avait interrompue. Personne ne voulait les voir. Si petite que je fusse, je me rappelle encore le roi priant mon grand-père d'inviter monsieur Descazes à une redoute où mon père devait danser avec la duchesse de Berry. « Vous me ferez plaisir, Florimond, » disait le roi. Mon grand-père, qui était un peu sourd, ayant entendu monsieur de Castries, trouvait la demande toute naturelle. Quand il comprit qu'il s'agissait de monsieur Descazes, il eut un moment de révolte, mais s'inclina et écrivit le soir même à monsieur Descazes en le suppliant de lui faire la grâce et l'honneur d'assister à son bal qui avait lieu la semaine suivante. Car on était poli, monsieur, dans ce temps-là, et une maîtresse de maison n'aurait pas su se contenter d'envoyer sa carte en ajoutant à la main « une tasse de thé » ou « thé dansant » ou « thé musical ». Mais si on avait la politesse, on n'ignorait pas non plus l'impertinence. Monsieur Descazes accepta, mais la veille du bal, on apprenait que mon grand-père, se sentant souffrant, avait décommandé la redoute. Il avait obéi au roi, mais il n'avait pas eu monsieur Descazes à son bal. Oui, monsieur, je me souviens très bien de monsieur Mollet. C'était un homme d'esprit, il l'a prouvé quand il a reçu monsieur de Vigny à l'académie. Mais il était très solennel, et je le vois encore descendant dîner chez lui, son chapeau haut de forme à la main. Ah ! C'est bien évocateur d'un temps assez pernicieusement philistin. Car c'était sans doute une habitude universelle d'avoir son chapeau à la main chez soi, dit Bloch, désireux de profiter de cette occasion si rare de s'instruire, auprès d'un témoin oculaire, des particularités de la vie aristocratique d'autrefois. Tandis que l'archiviste, sorte de secrétaire intermittent de la marquise, jetait sur elle des regards attendris et semblait nous dire « Voilà comme elle est, elle sait tout. Elle a connu tout le monde. Vous pouvez l'interroger sur ce que vous voudrez. Elle est extraordinaire. » Mais non, répondit madame de Villeparisis, tout en disposant plus près d'elle le verre où trempaient les cheveux de Vénus, que tout à l'heure elle recommencerait à peindre. C'était une habitude à monsieur Mollet, tout simplement. Je n'ai jamais vu mon père avoir son chapeau chez lui. Excepté, bien entendu, quand le roi venait. Puisque, le roi étant partout chez lui, le maître de la maison n'est plus qu'un visiteur dans son propre salon. Aristote nous a dit dans le chapitre 2, hasarda M. Pierre, l'historien de la Fronde, mais si timidement que personne n'y fit attention. Atteint depuis quelques semaines d'insomnie nerveuse qui résistait à tous les traitements, il ne se couchait plus et, brisé de fatigue, ne sortait que quand ses travaux rendaient nécessaire qu'il se déplaçât. Incapable de recommencer souvent ses expéditions si simples pour d'autres, mais qui lui coûtaient autant que si pour les faire il descendait de la lune, il était surpris de trouver souvent que la vie de chacun n'était pas organisée d'une façon permanente pour donner leur maximum d'utilité aux brusques élans de la sienne. Il trouvait parfois fermée une bibliothèque qu'il n'était allé voir qu'en se campant artificiellement debout et dans une redingote comme un homme de Wells. Par bonheur, il avait rencontré madame de Villeparisis chez elle et allait voir le portrait. Bloch lui coupa la parole. « Vraiment ? » dit-il en répondant à ce que venait de dire madame de Villeparisis au sujet du protocole réglant les visites royales. « Je ne savais absolument pas cela. » Comme s'il était étrange qu'il ne le sût pas. À propos de ce genre de visite, vous savez la plaisanterie stupide que m'a faite hier matin mon neveu Bazin ? Demanda madame de Villeparisis à l'archiviste. Il m'a fait dire, au lieu de s'annoncer, que c'était la reine de Suède qui demandait à me voir. Ah ! Il vous a fait dire cela froidement comme cela ? Il en a de bonnes ! S'écria Bloch en s'esclaffant, tandis que l'historien souriait avec une timidité majestueuse. J'étais assez étonnée parce que je n'étais revenue de la campagne que depuis quelques jours. J'avais demandé pour être un peu tranquille qu'on ne dise à personne que j'étais à Paris, et je me demandais comment la reine de Suède le savait déjà. Reprit madame de Villeparisis, laissant ses visiteurs étonnés qu'une visite de la reine de Suède ne fût en elle-même rien d'anormal pour leur hôtesse. Certes, si le matin madame de Villeparisis avait compulsé avec l'archiviste la documentation de ses mémoires, en ce moment elle en essayait à son insu le mécanisme et le sortilège sur un public moyen, représentatif de celui où se recruteraient un jour ses lecteurs. Le salon de madame de Villeparisis pouvait se différencier d'un salon véritablement élégant, d'où auraient été absentes beaucoup de bourgeoises qu'elle recevait, et où on aurait vu, en revanche, telles des dames brillantes que madame Leroy avait fini par attirer. Mais cette nuance n'est pas perceptible dans ses mémoires, où certaines relations médiocres qu'avait l'auteur disparaissent parce qu'elles n'ont pas l'occasion d'y être citées. Et des visiteuses qu'ils n'avaient pas, n'y font pas faute, parce que dans l'espace forcément restreint qu'offrent ces mémoires, peu de personnes peuvent figurer, et que si ces personnes sont des personnages princiers, des personnalités historiques, l'impression maximum d'élégance que des mémoires puissent donner au public se trouve atteinte. Au jugement de madame Leroy, le salon de madame de Villeparisis était un salon de troisième ordre, et madame de Villeparisis souffrait du jugement de madame Leroy. Mais personne ne sait plus guère aujourd'hui qui était madame Leroy. Son jugement s'est évanoui, et c'est le salon de madame de Villeparisis, où fréquentait la reine de Suède, où avait fréquenté le duc d'Aumale, le duc de Broglier, Thiers, Montalembert, monseigneur du Panloup, qui sera considéré comme un des plus brillants du XIXe siècle par cette postérité qui n'a pas changé depuis les temps d'Homère et de Pindare, et pour qui le rang enviable, c'est la haute naissance, royale ou quasi-royale, l'amitié des rois, des chefs du peuple, des hommes illustres. Or, de tout cela, madame de Villeparisis avait un peu dans son salon actuel et dans les souvenirs, quelquefois retouchés légèrement, à l'aide desquels elle le prolongeait dans le passé. Puis, monsieur de Norpois, qui n'était pas capable de refaire une vraie situation à son ami, lui amenait en revanche les hommes d'État étrangers ou français qui avaient besoin de lui, et savait que la seule manière efficace de lui faire leur cour était de fréquenter chez madame de Villeparisis. Peut-être madame Leroy connaissait-elle aussi ces éminentes personnalités européennes. Mais, en femme agréable et qui fuit le ton des bas bleus, elle se gardait de parler de la question d'Orient au premier ministre, aussi bien que de l'essence de l'amour aux romanciers et aux philosophes. L'amour, avait-elle répondu une fois à une dame prétentieuse qui lui avait demandé « Que pensez-vous de l'amour ?»« L'amour, je le fais souvent, mais je n'en parle jamais. » Quand elle avait chez elle de ces célébrités de la littérature et de la politique, elle se contentait, comme la duchesse de Guermantes, de les faire jouer au poker. Ils aimaient souvent mieux cela que les grandes conversations à idées générales, où les contraignait madame de Villeparisis. Mais ces conversations, peut-être ridicules dans le monde, ont fourni au souvenir de madame de Villeparisis de ces morceaux excellents, de ces dissertations politiques qui font bien dans des mémoires, comme dans les tragédies à la Corneille. D'ailleurs, les salons des Madame de Villeparisis peuvent seuls passer à la postérité, parce que les Madame le Roi ne savent pas écrire, et le sauraient-elles, n'en auraient pas le temps. Et si les dispositions littéraires des Madame de Villeparisis sont la cause du dédain des Madame le Roi, à son tour, le dédain des Madame le Roi sert singulièrement les dispositions littéraires des Madame de Villeparisis, en faisant aux dames bas bleus le loisir que réclame la carrière des lettres. Dieu, qui veut qu'il y ait quelques livres bien écrits, souffle pour cela ses dédains dans le cœur des Madame le Roi, car il sait que si elles invitaient à dîner les Madame de Villeparisis, celles-ci laisseraient immédiatement leur écritoire et feraient atteler pour 8 heures. Au bout d'un instant, entra, d'un pas lent et solennel, une vieille dame d'une haute taille et qui, sous son chapeau de paille relevé, laissait voir une monumentale coiffure blanche à la Marie-Antoinette. Je ne savais pas alors qu'elle était une des 3 femmes qu'on pouvait observer encore dans la société parisienne, et qui, comme Madame de Villeparisis, tout en étant d'une grande naissance, avait été réduite, pour des raisons qui se perdaient dans la nuit des temps et qu'auraient pu nous dire seuls quelques vieux beaux de cette époque, à ne recevoir qu'une lie de gens dont on ne voulait pas ailleurs. Chacune de ces dames avait sa duchesse de Guermantes, sa nièce brillante qui venait lui rendre des devoirs, mais ne serait pas parvenue à attirer chez elle la duchesse de Guermantes d'une des 2 autres. Madame de Villeparisis était fort liée avec ces 3 dames, mais elle ne les aimait pas. Peut-être leur situation assez analogue à la sienne lui en présentait-elle une image qui ne lui était pas agréable. Puis, aigrie, bas bleu, cherchant, par le nombre des scénettes qu'elle faisait jouer, à se donner l'illusion d'un salon, elles avaient entre elles des rivalités qu'une fortune assez délabrée au cours d'une existence peu tranquille forçait à compter, à profiter du concours gracieux d'un artiste en une sorte de lutte pour la vie. De plus, la dame à la coiffure de Marie-Antoinette, chaque fois qu'elle voyait Madame de Villeparisis, ne pouvait s'empêcher de penser que la duchesse de Guermantes n'allait pas à ses vendredis. Sa consolation était qu'à ces mêmes vendredis ne manquait jamais, en bonne parente, la princesse de Poix, laquelle était sa Guermantes à elle, et qui n'allait jamais chez Madame de Villeparisis, quoique Madame de Poix fût amie intime de la duchesse.